AfriJet Fly Gabon, le cœur de l'Afrique vous est ouvert.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera ce journal avec le cadre législatif des élections qui vient d'être posé au Gabon. La transition est censée s'achever dans quelques 7 mois et le nouveau code électoral vient d'être adopté hier par les députés et les sénateurs. Un avocat qui crie à la justice en RDC. Il défend un des jeunes condamnés à mort dans le cadre des opérations anti-Kuluna, ces gangs qui sèment la terreur à Kinshasa. Mais problème, selon lui, son client ne serait absolument pas membre d'un gang. Les locaux d'une ONG cambriolés ce week-end au Cameroun, l'organisation Nouveaux Droits de l'Homme, tout son matériel informatique avec des données sensibles a été dérobé. Un accord signé à distance et qui dépasse les frontières, un accord entre le mouvement Cœur Uni, le parti du président de Centrafrique, et le parti Russie Unie, la formation de Vladimir Poutine. L'arrestation du rebelle centrafricain Armel Sayo, également dans ce journal. Arrestation au Cameroun, annoncée par le gouvernement de Bangui. Il affirme avoir sollicité une extradition. Et puis notre dossier du jour sur les opérations d'éguerpissement et leurs conséquences, on ira en Côte d'Ivoire. C'est une étape importante de la transition amorcée au Gabon après le coup d'État ayant chassé Ali Bongo du pouvoir. Le nouveau code électoral a donc été adopté hier par les députés et les sénateurs. Un texte qui encadrera les élections, censé refermer cette transition avant la fin août, soit 2 ans après le putsch militaire. 3 scrutins sont attendus, présidentiels, législatifs et locaux. À Libreville, correspondance d'Yves Laurent Goma.
À l'Assemblée nationale et au Sénat, le nouveau code électoral est salué comme une avancée majeure en matière de transparence électorale. Paul Biogemba est député et président par intérim du Parti démocratique gabonais, le parti chassé du pouvoir par les militaires.
On a essayé de faire en sorte que, à chaque étape du processus, il y ait sécurité, transparence, justice, des élections justes. Je pense que c'est un grand pas et je pense que les scrutins qui sont prévus très prochainement cette année devront se dérouler de manière plus satisfaisante.
Le code permet désormais aux militaires et aux magistrats de briguer les suffrages universels à condition de se mettre en disponibilité avant de faire acte de candidature. Il augmente le nombre de sénateurs de 52 à 70. La diaspora aura désormais droit à 2 députés. PPC Ogouligende, député, salue la fleur faite aux femmes et aux jeunes.
C'est la première fois que dans le code électoral au Gabon, on tienne compte de l'inclusion des femmes et des jeunes. 30% de quota minimum pour les femmes et 20% minimum pour les jeunes.
Les états-majors politiques n'ont pas encore réagi. Le premier ministre Raymond Nsima s'est félicité de l'adoption de ce code. Il a promis que le chronogramme de la transition sera respecté. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
C'est une exclusivité RFI. Saïf al-Islam Kadhafi sort de son silence dans un échange écrit avec la radio du Monde. Le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de l'ancien chef de l'État français. Saïf al-Islam Kadhafi affirme aussi que le clan Sarkozy l'a approché à 3 reprises pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire. En face, les avocats de Nicolas Sarkozy démentent ces accusations, les qualifiant de fantaisistes et opportunistes. On y revient plus largement sur ce dossier dans le journal de 8h avec Ouda Ibrahim qui est à l'origine de ces révélations. Conséquence de l'opération Zéro Kuluna Ndobo en RDC. Vous savez, cette opération menée ces derniers temps contre les Kuluna, les membres de gangs qui font régner la terreur à Kinshasa. Eh bien, plus d'une centaine de condamnations à mort ont été prononcées par la justice en première instance. Des prisonniers envoyés dans une prison de haute sécurité dans le nord-ouest de la RDC. Mais problème, un avocat au moins affirme que tous les jeunes condamnés n'étaient pas membres de gangs. Maître Frédéric Kwamba dénonce ainsi le cas de son client, un membre de la chorale d'une église évangélique arrêté alors qu'il rentrait tard d'une répétition.
Des civils ou des prévenus des droits communs sont jugés devant les juridictions militaires, y compris certains mineurs présumés. Nous avons également déploré la manière dont et pour les raisons pour lesquelles notre client a été arrêté, c'est parce qu'il s'est promené la nuit en provenance d'une activité de son église. Le fait de les déplacer, personne ne peut relever appel. Et ceux qui ont relevé appel ne seront plus à mesure d'être présentés devant leur juge naturel qui siège à Kinshasa et non où ils se retrouvent en ces moments. Pour le cas de notre client, par exemple, Dieu merci Ndombasi, la personne elle-même se trouve en dehors de cette juridiction qui doit connaître de l'affaire en appel. Donc nous voulons que nos clients bénéficient de toutes les garanties pour éviter que certains innocents ne soient collés aux criminels et la précipitation qui a eu n'est plus la même lorsqu'ils relèvent appel. Nous sentons que rien n'avance, tout est arrêté, comme si déjà condamné à purger sa peine.
L'avocat Frédéric Kouamba en RDC. Qui en veut à l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme au Cameroun? Cette organisation se bat, comme son nom l'indique, pour les droits humains et les libertés fondamentales. Et après avoir fait l'objet de menaces, ses locaux dans la capitale Yaoundé ont été cambriolés ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Tout le matériel informatique a notamment été emporté. Reportage sur place, Richard Onanena.
La porte est fermée.
Oui, tout le monde.
Ils sont entrés comment ?
Siège de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme au quartier Nkoleton. Les éléments du commissariat du 10e arrondissement scrutent les signes d'infraction. Serrures fracturées, cadenas coupées, des documents jetés à même le sol. Deux jours après le forfait, les marques du cambriolage sont encore visibles dans le bureau de la directrice Cyril Roland Béchon.
La porte était fermée. Je refais mon bureau. Après, ils ont forcé là. Ils ont endormi. Tout au-dessus, dessous, ils ont tout fouillé partout, là, enlevé des trucs. Là, ils ont forcé ici.
Difficile de travailler pour la demi-douzaine d'employés présents dans les bureaux après le vol des unités centrales de tous les postes d'ordinateurs, des disques durs et des clés USB. Du matériel informatique contenant des informations sensibles emportées par les cambrioleurs. Pour l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire.
C'est inédit quand même pour nous, c'est difficile. Et ça crée quand même une situation de traumatisme avec le drapeau qui est enlevé, qui quand même met tout le monde un peu sur l'alerte. Mais on n'est pas très surpris parce que depuis des mois maintenant, il y a une recrudescence des menaces, des intimidations par rapport, comme vous le savez, au contexte des libertés publiques au Cameroun sur les pressions que subissent ces organisations, nos prises de position et autres.
Le droit de l'homme a déposé une plainte auprès de la police et appelle les autorités compétentes à faire la lumière sur cette affaire. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Au-delà les frontières, un accord à portée symbolique, un accord signé hier entre le mouvement Cœur Uni, le parti du président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, et le parti Russie Unie, la formation de Vladimir Poutine. Une signature à distance organisée entre Bangui et Moscou, alors que le chef de l'État centrafricain revient à peine d'une visite officielle de 3 jours en Russie, justement, François Mazé.
À l'époque soviétique, on aurait appelé cela des partis frères. D'un côté de l'écran, à Moscou, Andrei Klimov, ce membre du bureau de Russie Unie, est un sénateur sous sanctions occidentales pour son soutien à l'invasion de l'Ukraine. De l'autre, à Bangui, Simplice Mathieu Sarandji est un allié du premier jour du président Touadéra, président de l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif du MCU. Écharpe à l'effigie du chef de l'État sur les épaules, il appose sa signature sous l'œil de l'ambassadeur Alexandre Bikantov, du consul Vladislav Ilin, et du directeur de la maison russe Dimitri City, chef des opérations économiques et informationnelles de la galaxie Wagner dans le pays. Selon l'ambassade de Russie, cet accord de coopération ouvre de nouveaux horizons. Il prévoit un approfondissement des relations entre les deux parties, des projets communs et des échanges d'expériences en matière législative. Une suite symbolique au voyage à Moscou du président Touadéra, qui intervient alors que débute la mobilisation de ses soutiens en vue d'un nouveau mandat à la présidentielle de fin d'année. Un accord révélateur selon l'opposition. Le MCU aspire à être comme le parti Russie Unie, tentaculaire, oppresseur, se confondant avec l'État et la justice, dénonce l'opposant Crépin Boligumba.
François Mazé, le gouvernement de Centrafrique qui annonce l'arrestation au Cameroun d'Armel Sayo. C'était vendredi dernier à l'aéroport de Douala où il reste en détention pour l'instant. Cet ancien chef rebelle centrafricain accusé de violation des droits humains, il avait été ministre sous la transition. Puis après les accords de Khartoum entre 2019 et 2021, il avait ensuite repris les armes et lancé un nouveau groupe rebelle l'an dernier, la coalition militaire de salut du peuple et de redressement. Armel Sayo avait d'ailleurs récemment menacé de renverser le régime actuel à Bangui. Aujourd'hui, des démarches ont été engagées pour réclamer son extradition, nous dit le porte-parole du gouvernement centrafricain, Maxime Balalou.
C'est vrai, il a été arrêté. Il y en a qui veulent connaître la position du gouvernement. Nous ne travaillons pas de cette manière-là. La justice existe dans notre pays. Ce sont des criminels. Le moment venu, vous saurez l'action que le gouvernement mettra en place. C'est un travail qui se fait puisqu'il s'agit véritablement d'atteinte. On cherche à atteindre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne permettrons pas ça. Nous sommes déterminés à protéger la population et que nous n'accepterons pas qu'on puisse encore créer d'autres problèmes à la République centrafricaine. On lit ça dans les journaux que les autorités camerounaises sont réticentes de livrer. Ça, ce sont des spéculations. Nous ne sommes pas là. La justice camerounaise suit les procédures. De toutes les façons, les auditions ont commencé aujourd'hui et au fur et à mesure, on saura. Il y a tout un processus judiciaire qui va être mené en respectant le droit international. Et ça, c'est ce que nous aussi, on est un pays respectueux du droit international. Donc pour ça, vous aurez des informations supplémentaires.
Voilà les mots du porte-parole du gouvernement centrafricain Maxime Balalou au micro de Rolf Steve Domialeux. L'heure d'un bilan en Côte d'Ivoire à présent, c'est notre dossier ce matin sur RFI. Après les opérations d'éguerpissement menées tambour battant l'an passé dans la capitale économique Abidjan, des opérations qui ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire, évidemment. Des quartiers rasés dans des zones d'habitation considérées illégales ou à risque. Et cela au nom de l'assainissement du cadre de vie. Mais ces opérations posent forcément question pour toutes les familles qui ont dû déguerpir. Que sont-elles devenues aujourd'hui? Reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Sur le site désolé de l'ancien quartier abattoir à Port-Boué, Ousseini contemple avec nostalgie les ruines de ce qui fut sa maison pendant 3 décennies. Il y a 6 mois, son domicile et son lieu de travail ont été détruits en une seule journée. Depuis, sa vie a basculé.
On est obligé de confier les enfants à les parents qui sont ailleurs. Et je suis avec madame de notre quartier. Avant, je payais 30 000 sans salon. Mais maintenant, où je suis là, je suis obligé de prendre une maison de 50 000. Mais actuellement, je m'en vais jusqu'à Anyama pour aller travailler.
Ousseini n'est pas le seul à avoir vu son quotidien bouleversé. Cet autre habitant du quartier raconte son parcours semé d'embûches pour trouver un nouveau toit. Mais comme beaucoup, il garde l'espoir de recevoir un soutien des autorités.
Moi, personnellement, je n'ai rien reçu. Ni même 5 francs, ni même un terrain, comme on a vu dans le communiqué, que c'était à Nani. On se fait recenser, on attend. Le peu de moyens qu'on a, on a tellement mis ça dans la photocopie qu'actuellement, nous-mêmes, on garde notre argent maintenant pour voir autre chose, quoi. Je serai toujours optimiste, hein.
Le quartier abattoir de Port-Boué devrait faire place à des logements au standing, des entrepôts et des espaces de loisirs. Les opérations de déguerpissement ont touché 20 sites sur les 176 identifiés dans la capitale économique ivoirienne. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Des opérations d'éguerpissement décriées en Côte d'Ivoire comme sous d'autres cieux. Les principaux intéressés attendent des compensations en retour, on l'a compris. Eh bien ici, ce sera le cas, affirment les autorités. Écoutez la réponse du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo.
Cette cellule travaille sur le relogement de 15 000 foyers à Andonkwa 1 et à Anani. L'objectif que nous recherchons, c'est de loger ces personnes à l'horizon de mars 2025, c'est-à-dire donc dans 2 mois, 3 mois maximum. Nous travaillons très dur de sorte à ce que ce délai-là puisse être respecté. Concernant le dédommagement, il a aussi démarré, pour ne pas dire qu'il a bien avancé. Donc nous travaillons dans le cadre donc de cette cellule qui a été mise en place à faire en sorte que personne ne soit oublié. Donc je voudrais rassurer que les personnes qui ont été impactées par l'opération de restauration de l'ordre sur les différents sites difficiles, que ce soit à Jesco, à Bouribana ou à Port-Boué, les personnes sont prises en main, sont prises en charge et dans les mois à venir, leur relogement sera effectif.
Voilà le ministre gouverneur du district d'Abidjan.